Vous êtes sur RTL.
Et le journal, c'est avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Encore un dispositif de sécurité exceptionnel demain.
À l'occasion des défilés du 1er mai, les forces de l'ordre s'attendent à des cortèges composés de syndicalistes, de gilets jaunes, mais aussi et surtout de casseurs. Le calendrier gouvernemental est sur les rails. Édouard Philippe a donné le détail des prochaines échéances et s'est serré pour mettre en œuvre les annonces d'Emmanuel Macron. Le jour où l'empereur abdiqua, journée historique qui se profile au Japon, Arihito se retire en faveur de son fils Naruhito. Et puis toute autre chose, seriez-vous prêt à garder le même numéro de téléphone fixe toute votre vie? Une grande consultation est lancée en ce sens. Le but, faciliter la vie de tout le monde.
On aura deux météos avant 6h30, Marina.
À Vittel, dans les Vosges, les nuages vont dominer aujourd'hui. Il y est prévu 15 degrés cet après-midi.
Et puis à 6h20... Plus que jamais, demain, le 1er mai rimera avec sécurité.
Les syndicats espèrent rassembler le plus de monde possible, allusion directe aux gilets jaunes, comme l'expliquait Philippe Martinez hier sur RTL. Le numéro de la CGT était l'invité de Marc-Olivier Fogiel.
Ça doit être le rassemblement de tous ceux qui manifestent depuis des mois et des mois, parfois côte à côte, mais trop souvent les uns après les autres ou les uns derrière les autres. Et moi j'appelle donc tout le monde à se mobiliser le 1er mai.
Tout le monde. Pour les autorités, c'est bien ça le problème, car au-delà des syndicalistes et des gilets jaunes, elles craignent la venue de Black Blocs et voir Paris une nouvelle fois se transformer en champ de bataille, d'où un dispositif de sécurité très spécifique, Guillaume Chiez.
Oui, dès ce soir, les forces de l'ordre seront déployées aux abords des gares ferroviaires parisiennes. Le but, c'est de contrôler en amont le flot de voyageurs, faire en sorte que parmi eux ne se trouvent pas d'individus connus, fichés et venus pour la casse. Dans une note distribuée hier à ses équipes, le patron de la sécurité de proximité met l'accent en particulier sur les trains en provenance de l'étranger. Selon les services de renseignement, des black blocs espagnols, italiens et allemands pourraient vouloir rejoindre la capitale pour un tour de force. L'ultra-gauche veut frapper un grand coup. Un millier de militants est attendu demain. En revanche, l'ultra-droite, elle, pourrait se faire discrète. Enfin, deux syndicats, la CGT et FO, se sont engagés à assurer la sécurité de leur propre cortège. Les forces de l'ordre, elles, seront encore mobilisées en masse pour empêcher tout débordement.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Alors ça y est, le calendrier gouvernemental est en place. Les 6 prochains mois s'annoncent chargés.
Après une journée de séminaire à Matignon, hier, le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé la mise en œuvre des annonces d'Emmanuel Macron. Calendrier serré et surtout chargé, effectivement, Anaïs Bouissou.
Oui, c'est une avalanche de réformes à venir dans les 6 prochains mois. Ça commence dès la semaine prochaine où syndicats, patrons, associations seront réunis par le Premier ministre pour parler de l'emploi. Pour le mois de juin, Édouard Philippe a annoncé pêle-mêle la réforme de l'assurance chômage, un éventuel aménagement de la mesure des 80 km/h sur les routes ou encore les détails des futures baisses d'impôts pour les ménages qui iront de pair avec la fin de certaines niches fiscales côté entreprise. Un mois de juin particulièrement chargé donc, avant un mois de juillet tout aussi embouteillé. Autant vous dire que les parlementaires qui avaient prévu de se reposer cet été ne vont pas avoir beaucoup de vacances. En juillet, seront présentés rien de moins que la révision de la Constitution, la présentation d'un projet de loi sur la bioéthique et l'aide aux familles monoparentales pour leur permettre de vraiment toucher leur pension alimentaire. La réforme des retraites sera présentée début septembre, avant la réforme de l'autonomie des personnes âgées ainsi que la réforme de l'ENA, attendue pour l'automne. À Matignon, on est n'hésite pas à parler d'un travail de titan, mais le président a donné ses consignes et il n'est pas question de les remettre en cause.
Anaïs Bouissou pour RTL. 8 mois de prison avec sursis, mais aussi 180 heures de travaux général. Un homme était jugé hier soir pour avoir crié « Suicidez-vous » à des policiers lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris il y a 10 jours. Il devra également verser 500 euros aux 2 fonctionnaires qui ont porté plainte. Il ne veut toujours pas dire ce qui s'est passé exactement la nuit du 16 au 17 février 2017 à Orvault, près de Nantes. La nuit où la famille Troadec a été assassinée. Le meurtrier présumé, Hubert Caouissin, est mis en examen pour un quadruple homicide concernant le couple et ses enfants. Il affirme que l'acte n'était pas prémédité. La justice n'y croit pas.
Il est à la fois accusé et accusateur. Pierre Ambroise Bosse, comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Le champion du monde du 800 mètres devra répondre de violences avec usage ou menace d'une arme. Il avait été impliqué, souvenez-vous, dans une bagarre en 2017 en Gironde. À ses côtés aujourd'hui au tribunal, l'ancien rugbyman Anthony Etcheverry qui accuse l'athlète de lui avoir jeté une bouteille de bière au visage. L'avocat de celui-ci espère enfin que la vérité soit rétablie. Écoutez, maître Arnaud Dupin.
Nous avons toujours indiqué que M. Bosse avait omis de spécifier qu'il était à l'origine de l'altercation puisqu'il a jeté une bouteille sur le visage de mon client et c'est ce qui a provoqué une réaction avec une certaine forme de violence. On attend simplement qu'il se comporte en homme et soit enfin enclin à dire la vérité plutôt que d'aller se pavaner dans les médias et d'aller inventer des histoires pour essayer de redorer son image.
Maître Arnaud Dupin, l'avocat d'Anthony Etcheverry, joint pour RTL par Jean-Alphonse Richard.
RTL 6h06, c'est un événement historique au Japon aujourd'hui, l'abdication de l'empereur.
Ça n'était plus arrivé depuis plus de 200 ans, mais Hirohito va effectivement passer le relais à son fils aîné la nuit prochaine. Il préfère se retirer pour des raisons de santé, une décision que la population comprend tout à fait, Constantin Simon.
Ce matin, dans les rues de Tokyo, les Japonais soutiennent le choix de leur empereur de renoncer au pouvoir.
Cela devenait un fardeau pour lui, donc ce changement de génération est très bien.
L'empereur Akihito régnait depuis 30 ans. Menant à l'inverse de ses prédécesseurs une vie moderne, apparaissant régulièrement dans les médias, il a transformé le rôle de l'empereur du Japon.
Avant, l'empereur était comme un dieu pour nous, on ne le voyait presque jamais, mais lui a changé cette image. Il nous a fait sentir qu'il était proche du peuple et qu'il était capable de s'excuser pour les crimes commis par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.
Eiichi Miyashiro est journaliste, spécialiste des questions impériales.
Au début de son règne, il a imposé un style différent. Il a beaucoup voyagé, il est venu consoler les victimes des guerres ou des catastrophes naturelles. Il a montré qu'il pouvait comprendre les gens normaux.
Le 1er mai, son fils Naruhito lui succédera à l'occasion d'une cérémonie dans le palais impérial. Historien de formation, le nouvel empereur a fait ses études à Oxford. Il devrait continuer à moderniser le rôle de l'empereur.
Constantin Simon, le correspondant de RTL au Japon. Le chef du groupe État islamique est toujours vivant. Hier, il a fait sa réapparition via une vidéo de propagande. Alors, difficile de savoir précisément quand est-ce que l'enregistrement a eu lieu. Mais c'est assez récent, puisqu'Abou Bakr al-Baghdadi évoque, entre autres, les attentats du Sri Lanka le dimanche de Pâques.
Et on en parlera avec notre invité dans 5 minutes, Claude Moniquet.
Aux États-Unis, Joe Biden a donné le coup d'envoi de sa campagne pour la présidentielle. Cela s'est passé à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Donné favori dans les sondages pour l'investiture démocrate, celui qui est âgé aujourd'hui de 77 ans, a dit vouloir rendre le respect et la dignité aux travailleurs dans ce bastion industriel. Toujours aux États-Unis, il voulait venger les attaques de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Un ancien militaire a été arrêté à Los Angeles alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat. Il y en était au stade de la fabrication d'une bombe artisanale.
C'est le rêve de beaucoup, garder le même numéro de téléphone toute la vie, c'est peut-être pour bientôt.
Alors ne rêvez pas trop, on parle simplement du téléphone fixe, mais
absolument.
C'est déjà pas mal.
Oui, oui.
L'ARCEP, l'administration chargée de réguler les communications, a un objectif, Charlotte Baris, simplifier la vie des usagers.
Oui, en conservant le même numéro de fixe, même quand on déménage, qu'on soit un particulier ou une entreprise. Alors ça va se faire en deux étapes. D'abord, dès l'année prochaine, en janvier 2020, si vous déménagez dans la même région d'indicatif, c'est-à-dire de 01 à 05, eh bien vous gardez le même numéro de téléphone. Par exemple, si vous habitez Bourges et que vous allez à Nantes ou à Rouen, vous restez dans la même zone. Votre numéro commençant par 02 ne changera donc pas. Deuxième étape, en 2023, là, quel que soit l'endroit où vous déménagez en France métropolitaine, eh bien vous conservez votre numéro, même si vous partez de Marseille pour emménager à Lille. À terme, l'idée, c'est donc de garder votre numéro de téléphone fixe à vie, comme avec les numéros en 06 ou en 09.
C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Charlotte Baris.
Non mais allô, quoi. Vous revenez à 7h.
Vous n'avez pas, vous ne donnez toujours pas votre 06, vous.
Merci. Non, non. Toujours. Agnès Bonfillon, vous revenez.